Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre invitée, Madame Galia Ackermann. Bonjour Madame Ackermann.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous présente, je rappelle que vous êtes écrivaine, historienne, journaliste et traductrice franco-russe et spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Après 25 années de travail sur RFI, la Radio France Internationale, vous avez publié en 2019 « La guerre sacrée de Poutine » chez Premier Parallèle et « Traversée de Tchernobyl » en 2016.
Absolument.
Et cela tombe bien que vous soyez avec nous aujourd'hui, car nous avons souhaité nous intéresser à ce côté de l'Europe, ou plus exactement encore, notre objectif est aussi avec vous de mieux comprendre les relations entre l'Union européenne et la Russie à l'aune des derniers événements et des nombreux sujets de discorde, dont l'affaire Navalny, bien sûr, l'expulsion de diplomates russes de Prague, les sanctions russes à l'égard de responsables européens, dont le président du Parlement européen, David Sassoli, ou encore le député français Jacques Maire, en charge pour l'Assemblée du Conseil de l'Europe de faire un rapport sur la situation autour d'Alexandre Navalny, sans oublier les manœuvres militaires à l'est de l'Ukraine, les cyberattaques et bien entendu le soutien sans faille actuel de Vladimir Poutine au régime de Loukachenko au Bélarus. Donc il y a de quoi parler et avoir vos éclairages. Alors d'abord, avec tous les sujets que je viens de citer, quel est pour vous le sujet le plus grave, celui qui pose pour vous le plus d'inquiétude ?
Le sujet, en fait, qui pose le plus d'inquiétude, on ne parle pas bizarrement assez des relations absolument glaciales entre les États-Unis et la Russie. Parce que, je vous rappelle, que l'ambassadeur russe a été rappelé pour consultation à Moscou. Il n'est pas retourné aux États-Unis. Et les Russes ont pratiquement poussé vers la sortie l'ambassadeur américain. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'ambassadeur en poste entre les deux pays. Ensuite, les Russes ont déclaré les États-Unis, ensemble avec la République tchèque d'ailleurs, pays hostile. Et pour les pays hostiles, ils ont introduit une nouvelle règle, à savoir que les personnels autres que citoyens du dit pays ne peuvent travailler dans les ambassades. Ce qui veut dire en clair que le personnel technique de n'importe quelle ambassade, c'est les habitants locaux, les résidents du pays où se trouve l'ambassade. Et c'était le cas aussi pour l'ambassade américaine en Russie. Maintenant qu'ils interdisent aux Russes de travailler là-bas et ne permettent pas d'embaucher même des citoyens autres que les Américains, les Américains vont être contraints dans la pratique de réduire très drastiquement leur ambassade. Ils ne pourront plus délivrer de visa, sauf des cas exceptionnels humanitaires. Ce qui veut dire que, bien sûr, les Russes vont faire pareil, qu'il n'y aura pratiquement pas d'échange de touristes, d'étudiants entre les deux pays. C'est une situation qui n'est pas arrivée pendant toutes les années de la guerre froide. C'est pourquoi je parle de la glaciation. Et je vous rappelle que, bien sûr, Joe Biden a une question d'un présentateur aux États-Unis quand il a été interviewé, a confirmé qu'il considérait Vladimir Poutine comme un tueur ou un assassin. Vous pouvez traduire killer par ces deux mots.
Il est prévu quand même qu'il se voit, je crois, le 16 juin.
C'est à cela que je veux en venir. Et donc, c'était un affront. Je pense que Biden sait ce qu'il fait, j'espère en tout cas. Ce que je veux dire, que les relations sont au plus bas de toute l'histoire de l'après-guerre. Et ça, c'est énorme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu une sorte d'équilibre, on peut dire, de la terreur, parce que ce sont les deux pays extrêmement nucléarisés, et donc il était toujours question que, en aucun cas, ils ne doivent entrer en confrontation directe. Or là, il semble être à un pas de la confrontation. Et c'est pour ça, je pense, que cette rencontre que Joe Biden, qui est prévue pour le 16 juin, doit permettre peut-être de désamorcer, ne serait-ce qu'un peu, cette tension extrême qui existe en ce moment entre la Russie et les États-Unis.
Vous faites partie des personnes qui pensaient qu'une nouvelle ère de guerre froide se forme entre la Fédération de Russie et ce qu'on pourrait appeler le monde occidental, ou est-ce que c'est juste quelque chose de plutôt lié à Poutine et à sa personne et quelque chose qui peut évoluer ?
Écoutez, Poutine aujourd'hui, malheureusement, c'est le chef de la Russie. Il y a un culte de sa personnalité qui ne peut être comparé qu'au culte à l'époque de Staline, et encore, il me semble que Staline était à titre personnel plus modeste que Poutine. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier Poutine de son régime et de la tournure que prennent les choses.
Oui, on appelle ça la Russie de Poutine en ce moment. C'est plus devenu voilà. La Russie, c'est la Russie de Poutine.
Et les propagandistes de ce régime rappellent dans chaque émission que Russie c'est Poutine et Poutine c'est Russie. Donc maintenant vous dites que c'est la guerre froide en devenir. Moi je pense qu'on a même en quelque sorte dépassé le stade de la guerre froide. Que c'est la guerre froide, moi j'appelle ça une nouvelle glaciation, parce que c'est une situation très grave, et quand Poutine, qui en fait enfreint toutes les règles des lois internationales, dit « ah ben tout ça ce n'est rien et faisons business as usual », c'est quelque chose qui bien sûr marche dans certains cas, mais ça marche de moins en moins aussi. Il y a quand même des sanctions contre le régime de Poutine, contre le régime de Loukachenko. On n'a pas l'impression que l'Europe ni les États-Unis vont abandonner ces sanctions. Et donc, il y a tout le temps des provocations. Tantôt, l'avion russe militaire escorte un avion britannique ou autre qui s'approche à leur avis trop dangereusement des frontières russes. Tantôt, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous ne sommes pas aujourd'hui même à l'abri d'un vrai incident militaire. Et quand, par exemple, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il dit que si les Russes entreprennent une nouvelle escalade en Ukraine, les États-Unis ne vont pas tolérer cela et vont aider à l'Ukraine par tous les moyens, c'est pratiquement un casus belli. Nous sommes dans une situation très dangereuse et il faut dire que c'est en quelque sorte Vladimir Poutine qui cherche de la provocation. Alors, donc c'est un comportement extrêmement dangereux.
Et alors, compte tenu de cette situation, quelle devrait être, selon vous, la stratégie adoptée, on a parlé des États-Unis, mais aussi par l'Union européenne, vis-à-vis de la Russie ?
Ne pas tolérer, essayer d'agir dans les instances internationales et surtout adapter les sanctions au modèle même de l'État russe. Parce que c'est à quoi appelle l'opposition russe qui maintenant se trouve pratiquement entièrement à l'étranger, je veux dire des chefs d'opposition, c'est-à-dire les gens de Navalny, puisque Navalny lui-même est en prison, mais aussi des gens comme Khodorkovsky, comme Kasparov, et tutti quanti. Il y a maintenant des centaines, peut-être même des milliers d'opposants russes qui vivent partout dans le monde. Et donc, tous disent d'une seule voix, pratiquement, que la mesure à prendre, c'est de lancer les représailles, les sanctions contre le premier cercle de Poutine. Les oligarques qui sont les piliers du régime, qui sont aussi corvéables, c'est-à-dire c'est un régime qui permet des passe-passe de centaines de millions, voire de milliards de dollars, c'est-à-dire l'État permet aux oligarques de s'enrichir sans concours, etc., en distribuant simplement des richesses nationales et des entreprises. Et en revanche, les oligarques ont non seulement voué l'éternelle reconnaissance à Vladimir Poutine, mais aussi sont corvéables quand il faut, par exemple, construire quelque chose ou trouver de l'argent pour telle ou telle chose, etc. Mais... parce qu'ils savent très bien qu'ils sont des gestionnaires qui profitent, mais qu'on peut leur reprendre leur richesse à tout moment. Si les oligarques sont sérieusement limités dans leurs actions, perdent une partie de leurs avoirs qui sont gelés, etc., etc., cela va les pousser peut-être à chercher une solution, je ne dis pas un coup d'État, mais peut-être presser Poutine, soit pour partir, soit pour changer sa ligne politique. Seulement, le problème de cela, c'est que l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, c'est des systèmes, des sociétés qui sont basées sur la loi. Et disons, quand on impose les sanctions, les sanctions, par exemple, sur les banques russes qui travaillent en Crimée, c'est compréhensible. C'est parce que nous ne reconnaissons pas l'annexion de la Crimée, voyez. Mais comment, juridiquement parlant, sanctionner les oligarques qui ne sont pas formellement responsables des méfaits du régime russe, c'est compliqué à mettre en place. Mais c'est probablement la seule chose qui pourrait être réellement efficace.
On pense aussi à des sanctions. Souvent, on parle de ce fameux gazoduc Nord Stream 2 comme étant peut-être une des sanctions qui pourrait être intéressante vis-à-vis de la Russie. Mais on sent que l'Allemagne, pour l'instant, avec Angela Merkel, n'est pas pour, mais qu'avec de nouvelles élections, peut-être avec une dirigeante ou des dirigeants plus verts qui sont plutôt contre ce gazoduc, il pourrait y avoir un retournement de situation. Est-ce que ce genre de mesure peut être intéressante ?
Nord Stream 2, c'est un peu la vitrine du régime. Non seulement que Gazprom, qui a perdu beaucoup d'argent ces dernières années, a vraiment besoin que ce gazoduc fonctionne, mais c'est aussi une question de fierté nationale. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est que l'Allemagne s'est retrouvée coincée avec cette affaire parce que la construction a commencé dans les années où ce régime était un tout petit peu plus présentable qu'actuellement. Et ce sont les sociétés allemandes qui ont investi des milliards de dollars dans ce projet. Il faut dire que l'Allemagne a arrêté l'énergie nucléaire, donc il n'y a plus de centrales qui fonctionnent. L'Allemagne ne veut pas utiliser, bien sûr, les combustibles fossiles, le charbon, pour produire l'électricité, mais c'est un pays de 80 millions d'habitants, extrêmement industrialisé, c'est le pays le plus industrialisé de l'Europe. Ils vont prendre l'énergie où ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils sont assez dépendants pour son industrie du gaz russe, et c'est pour ça qu'ils ont investi dans ce projet. Qu'on l'arrête pour des raisons politiques, l'Allemagne sera mise mal à l'aise. Je pense qu'il y a une vraie pression des cercles d'affaires pour que ce gazoduc fonctionne. Et comme vous savez, la première, il y aura deux branches de ce Nord Stream 2. Donc la première est déjà terminée. C'est considéré en Russie comme une grande victoire des Russes. Est-ce que la nouvelle direction allemande va arrêter cela pour des raisons écologiques qui ont été invoquées? Personnellement, j'ai quelques doutes là-dessus. Il y a autre chose qui pourrait finalement porter préjudice à Nord Stream 2, c'est le fait qu'il y a une directive européenne qui ne permet pas à la même société, en l'occurrence le Gazprom, d'être à la fois fournisseur et transporteur, parce que c'est monopoliste. Et donc, ils sont obligés de donner 50% de leur capacité à d'autres fournisseurs. Mais d'autres fournisseurs, il n'y en a pas depuis la Russie, parce que le Gazprom est monopoliste sur le marché russe. Donc, ce qui va se produire, c'est que le Nord Stream risque de n'être rempli qu'à moitié. Et il n'est pas évident que s'il est rempli qu'à moitié, que son exploitation sera très intéressante. Et comme il y a des projets concurrents, je n'ai pas la certitude absolue que ce projet fonctionne très longtemps. En tout cas, en termes économiques, il n'est pas certain que ça produise de gros bénéfices pour la Russie. Voilà.
Alors, je vous propose de faire cette pause musicale avec un groupe qui s'appelle Soviet Supreme, qui est un groupe de rap qui fait comme si, en fait, la guerre froide a été inversée, que c'était le côté soviétique qui aurait gagné, et donc la musique, voilà ce qu'elle serait, selon eux.
Nicolas, Yaroslav, Saint-Daniel, Vassili, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri, Tsardaris, Irina, Mikhail, Ladislas, Alexei, Simeon, Piotr, Alexander, Katerina, Vladimir.
Madame Ackermann, j'aimerais revenir sur un peu la situation au Bélarus. Que peuvent les démocraties ? Il y a les sanctions et qu'est-ce qu'elles peuvent d'autre ?
Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut bien sûr soutenir la société civile biélorusse qui maintenant en grande partie aussi les ténors de cette rébellion contre Loukachenko se trouvent en exil, la plus connue étant la candidate aux élections présidentielles passées, Svetlana Tikhanovskaya, mais pas seulement elle. Mais il faut dire que la situation en Biélorussie, au Bélarus, est extrêmement difficile. Et il est difficile, là aussi, de faire des pressions, fortes soient-elles, sur Loukachenko, tant qu'il a l'appui, le soutien de Poutine et le soutien, ce qui est encore plus important, de sa propre armée, de ses services secrets, de sa bureaucratie, de sa police, de son système judiciaire. Vous savez, nous avons vécu une période, il y a une dizaine d'années, quand il y avait 10-15 ans, quand il y avait une vague de ce que les Russes appellent les révolutions de couleur, parce qu'il y avait la révolution orange en Ukraine, la révolution rose en Géorgie, la révolution des tulipes au Kyrgyzstan, les révolutions démocratiques en Serbie, dans les pays arabes, etc. Et on a pu voir qu'à cette époque, les gouvernements autoritaires étaient mal préparés à de tels mouvements de masse. Quand il y avait des millions qui sortaient pour protester, souvent tel ou tel régime lâchait. Par exemple, en Ukraine, en 2004, quand il y a eu la révolution orange, c'était à cause, je vous rappelle quand même, il y avait une longue série de protestations de masse, à l'issue desquelles le pouvoir a accepté le troisième tour de l'élection présidentielle. Et là, Yanukovych a perdu et c'est Yushchenko qui est devenu président. Vous voyez, dans plusieurs cas de ces révolutions populaires, le pouvoir a lâché, a cédé pacifiquement le pouvoir. Pour le Maïdan, Yanukovych, après une tentative d'assaut contre les manifestants, il s'est enfui. Il a lâché aussi. Vous voyez, et ça s'est produit, donc ça s'est produit aussi en Géorgie, comme ça, etc. Mais je crois que les dictateurs et les gouverneurs autoritaires dans le monde ont compris qu'en fait, il ne faut pas céder à la foule, quel que soit le prix humain à payer. C'est ce que les Chinois ont fait avec Tiananmen, mais c'est ce que Maduro a fait avec toute la protestation. Vous voyez, ça a duré des mois, mais finalement, c'est Maduro qui est resté au pouvoir. Guaido n'a pas... Il a été reconnu par des dizaines de pays en tant que président par intérim légitime. Mais ça n'a rien changé. Et donc, Loukachenko, maintenant, il utilise ce nouveau modèle de comportement des dictateurs, c'est-à-dire il s'en fiche des protestations du peuple, parce que c'est lui qui a la force de son côté. Il peut emprisonner autant qu'il veut, il peut faire torturer les gens en prison. Il y a eu des cas quand les opposants ont été tués. Il a provoqué un exode massif de l'opposition vers l'étranger. Maintenant, ils sont en Lituanie et en Pologne, et ceux qui sont au Bélarus sont majoritairement en prison. Et donc, tant qu'il a le soutien de Poutine, et il a le soutien de Poutine, Loukachenko, il peut se le permettre. Le Bélarus, à 90%, les échanges commerciaux du Bélarus, c'est avec la Russie. C'est-à-dire, même si la Biélorussie ne peut rien exporter vers l'Occident et ne peut rien importer, tant que ce régime tient par la force et que Poutine l'approuve, eh bien, il va tenir, malheureusement. C'est très, très sombre ce que je dis, mais personnellement, je le pensais dès le début, connaissant un peu le profil psychologique de Loukachenko, que ça se passerait ainsi.
Il y a une relation un peu ambiguë entre Poutine et Loukachenko. Comment on peut expliquer ce soutien, on va dire, indéflectible entre Poutine et Loukachenko aujourd'hui, comme on l'a vu à Sotchi?
Ben écoutez, c'est ça le problème. En effet, vous savez, il y a plus de 20 ans, encore entre Eltsine et Loukachenko, ils ont signé une sorte de mémorandum qui préconisait à terme, la création d'un supra-État binational, russo-biélorusse, l'état d'union. Mais à l'époque, Loukachenko a signé ce document parce qu'il pensait qu'il pourrait être à tour de rôle, au nom de l'égalité, être aussi président de cet ensemble. Et vous voyez, c'est quand même une chose d'être président du Bélarus avec 10 millions d'habitants et d'être président de cet État supranational, donc avec 156 millions d'habitants et une étendue absolument gigantesque. Seulement, quand Poutine est arrivé au pouvoir, Loukachenko a assez vite compris que Poutine ne lui céderait jamais le pouvoir pour gouverner à tour de rôle ou quelque chose comme ça. Et donc, depuis, il freine. Ils ont fait tout un nombre de mesures qui ont marché, mais dès qu'il arrive aux questions de vraiment souveraineté, Loukachenko se rebiffe. Il ne veut pas perdre son pouvoir, il ne veut pas devenir gouverneur de province russe.
Mais finalement, il serait peut-être content de se débarrasser de lui, Poutine, d'une certaine manière.
Mais le problème, maintenant, Poutine est devant un dilemme assez important. Je pense que parmi les candidats qui briguaient le nouveau mandat présidentiel, il y en avait un certainement, peut-être deux, qui auraient pu convenir mieux à la Russie et aller de l'avant dans ce projet de fusion que Loukachenko. Je pense notamment à un banquier qui d'ailleurs travaillait pour la banque russe, Viktor Babariko, qui se trouve actuellement en prison. Mais Loukachenko l'a neutralisé avant les élections. Il aurait pu les gagner très facilement. Il est populaire en Biélorussie, mais Loukachenko l'a accusé de dilapidation de fonds, etc. Et où se trouve Babariko? Il se trouve en prison, tout simplement. Donc, le projet russe de se débarrasser de Loukachenko par les élections n'a pas marché. Et maintenant, c'était un dilemme très difficile pour Poutine, parce que soit Poutine doit composer avec l'opposition, et Poutine ne soutient pas par principe aucune révolte de rue, ou alors, puisque Loukachenko a prouvé qu'il pouvait quand même se maintenir malgré la révolte, il a dompté encore une révolution de couleur, donc Poutine n'a pratiquement pas d'autre choix que de le soutenir, parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre le Bélarus, vous voyez. Donc, peut-être qu'il ne s'aime pas, peut-être qu'il se déteste, mais objectivement parlant, ils sont maintenant dans la même barque.
Ben merci Madame Ackermann, on est très heureux de vous avoir eu avec nous pour avoir tous ces éclairages et sur les événements qui frappent aujourd'hui, hein, les relations complexes entre la Russie et le reste du monde et aussi parmi ceux-là l'Union européenne. Je rappelle que l'on peut vous retrouver sur le site web deskrussie.eu je crois, et donc avoir une newsletter régulière et très variée sur des informations sur la Russie. Et également qu'on peut retrouver votre dernier ouvrage, je crois que c'était donc « La guerre sacrée de Poutine » qui a été publié en 2019, c'est bien ça ?
Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine.
Oui, c'est ça, tout à fait, le titre complet. Merci beaucoup Madame Ackermann, et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une dernière émission avant une pause estivale, je crois bien méritée. À bientôt.
Si.